Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, paru en 1962. Les origines de la pensée grecque est un essai de philosophie, histoire et anthropologie historique dans lequel Jean-Pierre Vernant interroge la naissance des formes grecques de rationalité. Son objet ne consiste pas à raconter une apparition soudaine de la philosophie ni à opposer mécaniquement mythe et raison. Il reconstitue les transformations sociales, politiques et religieuses qui conduisent du monde palatial mycénien à la cité, puis aux premières élaborations cosmologiques de la Grèce archaïque. La question directrice est précise : quelles conditions ont rendu possible une pensée qui cherche à expliquer le monde par des principes discutables, publics et non par la seule autorité de tradition sacrée. Vernant relie ce changement aux pratiques de la polis, à la visibilité des affaires communes, au débat entre citoyens et à de nouvelles représentations de ordre, de mesure et de réciprocité. Bref mais dense, le livre propose une interprétation historique du passage vers une raison située, dont les usages politiques comptent autant que les ambitions théoriques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, du palais mycénien à la dispersion des pouvoirs. Vernant commence par le monde mycénien afin de montrer que les idées ne se comprennent pas indépendamment des institutions qui les portent. Dans cette organisation palatiale, le souverain concentre des fonctions administratives, militaires, économiques et religieuses. Les archives et les hiérarchies du palais expriment une société ordonnée autour de commandements personnels et de rapports de dépendance. Une telle structure favorise une représentation du monde où la puissance apparaît concentrée au sommet, chez le roi comme chez les divinités souveraines. La disparition des palais à la fin de l'âge mycénien ne produit donc pas seulement une crise matérielle ou politique. Elle décompose aussi le cadre qui organisait les pouvoirs et les significations collectives. Durant les siècles suivants, de nouvelles formes de solidarité, de compétition aristocratique et de vie communautaire se mettent en place. Le propos de Vernant est de suivre les effets intellectuels de cette mutation longue. Lorsque aucune instance unique ne peut plus incarner pleinement ordre social, les règles tendent à devenir un objet plus visible de négociation et de réflexion. Le passage à la cité ne se réduit pas à une modernisation institutionnelle, il change les conditions selon lesquelles les hommes conçoivent autorité, justice et équilibre. Cette généalogie évite de traiter la philosophie ionienne comme un miracle isolé de son histoire sociale. Deuxièmement, la polis comme cadre public de la rationalité, la thèse la plus connue de l'ouvrage tient dans le lien entre raison grecque et cité. Pour Vernant, la polis institue un espace où les affaires communes peuvent être exposées, discutées et soumises à des arguments. La parole ne disparaît pas du monde ancien. Mais son statut se transforme, elle devient un instrument de confrontation publique entre positions rivales, plutôt que la manifestation réservée d'une autorité sacrée ou royale. Les lois, les décisions collectives et les charges civiques acquièrent ainsi une forme de publicité qui exige justification et persuasion. Cette expérience ne concerne évidemment pas tous les habitants de la cité de manière égale, puisque la citoyenneté antique demeure limitée. Elle fournit néanmoins un modèle inédit pour penser des relations réglées entre personnes reconnues comme participantes au débat civique. Vernant insiste donc sur une rationalité politique avant de parler de science au sens moderne. La recherche de raisons valables se développe au sein de conflits, de procédures et de institutions qui rendent la contestation pensable. Cette approche corrige une vision purement intellectuelle des débuts de la philosophie. Les concepts ne naissent pas uniquement de observation de la nature ou de génie individuel, ils répondent aussi à une culture de discussion, de décision et de mise en commun. La raison décrite ici est historique et locale, non une faculté abstraite apparue hors de toute société. Troisièmement, de la souveraineté mythique à un cosmos soumis à un ordre, le livre ne présente pas le mythe comme une simple erreur que la raison aurait éliminée. Vernant examine plutôt une transformation des schémas explicatifs, dans les cosmogonies marquées par les mythes de souveraineté. La formation du monde se raconte volontiers comme une succession de conflits, de généalogies divines et de prises de pouvoir. Le cosmos y reflète une hiérarchie de puissance, culminant dans la domination d'un souverain. Les premiers penseurs grecs cherchent au contraire des principes capables de rendre compte de l'ordre du monde sans recourir principalement au récit des volontés divines. Cette inflexion est dite profane parce que l'explication tend à se formuler dans un registre qui ne dépend plus directement du secret rituel ni de la révélation. Elle reste toutefois proche de matériaux mythiques et ne correspond pas encore aux méthodes expérimentales modernes. Sa nouveauté réside dans la recherche de régularité, de rapports et de principes généraux. Le monde peut alors être envisagé comme un cosmos, soit un ensemble organisé dont les parties obéissent à un ordre commun. La rupture est donc partielle mais décisive, elle déplace la question de qui règne vers celle de comment un ordre se maintient. En suivant cette évolution, Vernant éclaire la continuité autant que la différence entre Hésiode et les penseurs de Milet. la philosophie naissante réélabore un héritage religieux au lieu de surgir dans un vide culturel. Quatrièmement, isonomie, proportion et modèle géométrique de ordre, un apport original de Vernon consiste à rapprocher les idées cosmologiques des formes sociales de équilibre. Dans la cité, les tensions entre groupes, les revendications aristocratiques et les aspirations à une participation plus large imposent de penser des limites à la domination de un seul. Les notions de réciprocité, de juste mesure et de partage deviennent alors centrales dans la représentation de ordre civique. Vernon relie cette expérience à une pensée géométrique attentive aux rapports, aux proportions et aux symétries. Il ne soutient pas que la géométrie découle directement de la démocratie, ni que toute théorie du cosmos est une traduction immédiate de la politique. Son analyse porte sur une analogie structurante, un univers ordonné peut être conçu sur le modèle de forces distribuées et équilibrées, plutôt que sur celui d'une souveraineté verticale. La notion de isonomie, associée à une égalité devant une règle commune, permet de saisir ce déplacement. Elle désigne moins une égalité sociale complète qu'une forme de relation politique où nul pouvoir ne doit échapper entièrement à la mesure collective. Cette perspective donne une portée concrète aux cosmologies archaïques. Elles ne décrivent pas seulement les éléments naturels. Elles rendent pensable un ordre stable sans arbitraire personnel. Le lecteur comprend ainsi pourquoi la réflexion sur la nature, la loi et la cité entretient chez les Grecs archaïques des liens étroits, sans jamais se confondre totalement. En dernier lieu, une raison grecque singulière, plutôt que la naissance universelle de la raison, Vernon refuse de faire de la Grèce le lieu où la raison humaine, au sens absolu, serait née une fois pour toutes. Cette réserve est essentielle pour lire son ouvrage sans le ramener au récit traditionnel du miracle grec, les penseurs de Milet. Les sages et les pratiques civiques inaugurent une forme spécifique de rationalité, marquée par le débat, la démonstration, la mesure et la recherche de ordre. Mais cette raison demeure liée à des institutions historiques, à des exclusions civiques et à des préoccupations différentes de celles des sciences contemporaines. Elle vise largement les rapports entre les hommes et les conditions d'une communauté ordonnée, autant que la maîtrise technique de la nature. Vernon distingue ainsi la pensée grecque de la science expérimentale moderne, dont les méthodes, les instruments et les critères de preuve sont autres. Cette prudence évite deux simplifications idéalisées les Grecs comme inventeurs de toute rationalité, ou opposer leur pensée à un passé entièrement irrationnel. Le livre permet plutôt de comprendre comment certaines pratiques de mise en discussion ont modifié les formes de savoir. Sa force critique tient à cette historicisation. Raison, mythe, politique et religion ne sont pas des blocs intemporels, mais des domaines dont les frontières se déplacent. Pour les lecteurs actuels, cette leçon aide à examiner les conditions sociales qui rendent possible une parole argumentée et un savoir publiquement contrôlable. En conclusion, les origines de la pensée grecque conviendra particulièrement aux lecteurs d'histoire de la philosophie, de Grèce ancienne, de sciences politiques et de anthropologie, ainsi qu'aux étudiants qui cherchent une porte-entrée exigeante vers la période archaïque. Sa brièveté ne doit pas faire attendre un manuel exhaustif sur les présocratiques, la religion grecque ou les institutions de la cité. Le bénéfice principal de la lecture est ailleurs, elle apprend à relier les manières de penser aux cadres sociaux qui leur donnent forme. Le lecteur acquiert ainsi une compréhension plus précise de la différence entre explication mythique, réflexion cosmologique et rationalité politique, sans réduire ces termes à des oppositions simplistes. L'ouvrage se distingue des histoires classiques de la philosophie qui alignent doctrine et auteur depuis Thalès. Vernon place les premiers penseurs dans une longue transformation allant de la royauté mycénienne à la police et fait de la publicité du débat, de la mesure et de l'équilibre des questions philosophiques autant que politiques. Cette méthode explique la place durable du livre dans les études helléniques. Elle peut aussi nourrir une réflexion contemporaine sur les conditions du désaccord raisonné. Une discussion publique ne garantit pas la vérité, mais elle crée des procédures où les prétentions au pouvoir et au savoir peuvent être soumises à examen. Certaines synthèses historiques peuvent offrir davantage de détails factuels. Peu articule avec autant de netteté institutions, représentations religieuses et naissance d'une rationalité située. Si vous souhaitez soutenir Jean-Pierre Vernon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.